Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En RDC, ils sont nombreux, ces contribuables qui ne s'acquittent pas promptement de leurs obligations fiscales. Des usages et pratiques frauduleuses ont été institués pour se soustraire illégalement à l'impôt, et cela porte sûrement un coup dur à l'économie nationale. Alors, pour certains, la fraude est tout simplement une réponse du contribuable à l'utilisation peu rationnelle des ressources de l'État. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir le civisme fiscal en République démocratique du Congo? Nous recevons Mme Godelive Elisabeth Longy, chargée d'études fiscales et communications à la DGI, à la Direction générale des impôts. Encore une fois, bonjour Madame.
Bonjour Radio Okapi.
Qu'est-ce qu'on entend par culture fiscale?
Merci d'abord d'inviter la Direction générale des impôts à partager avec la radio et puis ses auditeurs cette question de la culture fiscale. Mm-hmm. La culture, d'une manière simple, c'est ce qui reste en nous, c'est ce que nous apprenons avec les exercices, avec l'expérience. C'est ça la culture fiscale, c'est le civisme, l'attachement aux valeurs de la nation.
Mmh. Voilà, l'attachement aux valeurs de la nation, la culture fiscale. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui fait que certains, un bon nombre de Congolais, n'ont pas cette culture fiscale?
Ça remonte de très loin. Déjà, vous savez que le Congolais a mal vécu l'époque coloniale et surtout la perception des impôts à cette époque-là. D'ailleurs, si vous lisez beaucoup d'historiens, ils vont vous expliquer que c'était le pays qui a vécu d'une manière atroce le prélèvement des impôts. Ce qui fait qu'à partir de 1960, quand il y a eu l'indépendance, le Congolais a jugé bon s'est débarrassé des impôts. En fait, pour le Congolais, l'impôt était lié au pouvoir colonial. Donc c'est comme ça que le Congolais a plutôt développé une allergie fiscale qui se justifie notamment par ce qu'il a vécu pendant l'époque coloniale. Mmh. Mais plus tard, avec la défiscalisation, les choses se sont encore aggravées.
Okay.
Parce qu'avec la défiscalisation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'économie qui est défiscalisée, et pour fiscaliser, c'est toujours difficile dans un pays. C'est pourquoi on ne conseille pas tellement, en matière de politique fiscale, de pouvoir défiscaliser les activités ou bien une partie de l'économie. Mmh. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Ça s'est produit à quel moment, cette défiscalisation?
Déjà, au niveau de... Pendant l'époque de Mobutu, vous vous souvenez du fameux discours de Kinkole où le président Mobutu avait décidé à ce qu'on puisse défiscaliser une partie de l'économie. Et puis d'autres mesures qui ont été prises après, mais c'était... Parce que on comptait encore sur la Gécamines, sur la SNCC, mmh. sur les grandes entreprises qui amenaient de beaucoup de recettes à l'État. Mmh. Mais avec la chute de la Gécamines et avec la crise, déjà la crise de 82, parce qu'on parle aujourd'hui de la crise économique, mais en 82 il y a eu aussi une crise, une forte crise. Mmh. L'État a perdu une bonne partie de ses moyens. C'est comme ça qu'elle se retournait vers les impôts, mmh. qui étaient sûrs. Parce que là, maintenant, il fallait contribuer, chacun devait contribuer. Or, le Congolais n'était pas habitué à payer les impôts. Il n'était pas habitué à contribuer aux efforts de la nation. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je peux dire qu'avec le lancement de la TVA, il y a eu beaucoup de changements. Nous sentons qu'au niveau de la population, il y a cette question de l'impôt qui revient. Et ces réflexions autour de la contribution de chacun, autour de l'utilisation des impôts, c'est une très bonne chose. On sent que la population veut payer.
Mais c'était pas facile au début. Hein.
Non, c'était pas facile parce que le Congolais n'avait pas encore vécu l'impôt dans sa chair, si je me le permets.
Oui.
Parce que la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Bon, ils entendaient parler de l'impôt, tout le monde, comme vous venez de le dire, s'était organisé d'une certaine manière pour fuir les impôts. Mais maintenant, le Congolais est conscient que le pays s'est détérioré, le pays a des problèmes et nous devons tous participer aux efforts de reconstruction. Et c'est comme ça qu'ils demandent des explications, ce qui est tout à fait logique et normal, et ils payent.
Voilà. Alors dites-nous, pourquoi on prélève l'impôt? C'est quoi l'impôt?
L'impôt d'abord, si nous prenons une définition simple, c'est un prélèvement obligatoire sans contrepartie. Donc quand vous payez vos impôts, c'est votre devoir de participer à la gestion de la chose publique, de participer au service public. Donc vous manifestez votre citoyenneté en payant l'impôt. Je parle de l'impôt, je ne parle pas des autres taxes. Mmh. Oui. Et nous payons l'impôt pour que l'État fonctionne, pour que les services publics fonctionnent, pour que chacun se sente bien là où il est, et pour permettre à l'État aussi de pouvoir développer le pays, de pouvoir planifier le développement. C'est pourquoi nous payons les impôts.
Et certains disent que c'est pour construire les routes, les écoles, les infrastructures, de tout genre, les hôpitaux.
Oui, il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a l'éducation. Il faut payer les professeurs, il y a l'armée. Notre chère armée qui renaît de ses cendres. Mais il faut payer les militaires, il faut les mettre à l'aise. Mmh. Il y a les policiers qu'il faut payer. Donc c'est tout ce qui est service public qui est financé avec les impôts.
Voilà, c'est financé avec les impôts, mais à part les impôts, il y a d'autres taxes, vous venez de les dire tout à l'heure, qu'il y a d'autres taxes qu'il faut payer aussi.
Bon, il y a des taxes, il y a des droits de douane, par exemple, qui sont perçus par la DGDA, l'OFILA. Mmh. Il y a la DGRAD qui prend les taxes et tout ce qui est domanial. Donc, il y a tout ça, ça fait partie de recettes. Mais la DGI ne gère que les impôts d'État. Donc tout ce qui est obligatoire, sans contrepartie.
Sans contrepartie.
Sans contrepartie.
Voilà, donc cela contribue, disons, au budget national, à faire avancer le pays. Mais certains ont perdu confiance, ils se disent, on paye l'impôt, mais où va cet argent? Est-ce que ça finit pas dans les poches des uns et des autres quelque part?
Payons d'abord. C'est un langage qu'on trouve généralement chez ceux qui ne payent pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sentons que beaucoup, surtout au niveau des grandes entreprises, beaucoup ont la volonté de payer. Beaucoup de sociétés payent. Les grandes sociétés, pourquoi? Parce que pour la plupart, elles sont soumises au régime qu'on appelle le régime mère-fille. Donc, ça dit que quand elles payent, elles sont remboursées. Et elles doivent prouver que ce sont vraiment des citoyens, ils sont préoccupés par les impôts, ils doivent payer. Mmh. Et nous avons les moyennes qui payent aussi.
Et pourquoi on rembourse dans ces régimes mère-fille?
Ce sont de systèmes fiscaux dans certains pays pour éviter la double imposition. Une entreprise, une grande entreprise qui va s'installer dans un autre pays, si c'est une filiale, ça dépend du pays, si c'est une filiale, elle doit supporter tous les impôts au niveau de ce pays-là. Mais au niveau maintenant de la mère, de la société mère, on lui rembourse ce qu'elle a eu à supporter pour éviter la double imposition.
Okay. C'est ça le système mère-fille.
Mère-fille, excusez-moi. Okay. Mais c'est un système qui n'est pas appliqué chez nous, mais dans beaucoup de pays. Et ce sont ces entreprises qui viennent s'installer chez nous. Il y a aussi au niveau international cette dynamique. Quand on est, correct, on paye ses impôts.
Mais dans certains pays aussi, vous payez les impôts. À un certain mois de l'année, l'État vous rembourse.
C'est assez complexe. Mmh. C'est assez complexe le remboursement. Il y a des crédits d'impôt. C'est vraiment complexe. Mais là, nous sommes dans l'installation des entreprises dans notre pays.
Okay.
Oui. Il y a aussi sur le plan international cette dynamique-là qui consiste à évaluer le pays par rapport, l'entreprise par rapport à son civisme. Ce qui fait qu'au niveau de grandes entreprises, nous remarquons qu'il y a quand même cette volonté-là de pouvoir payer des impôts. Mais quand les gens discutent, ils veulent savoir d'abord ce qu'on fait avec
l'argent.
Mais on paye d'abord et puis on demande des explications, on demande des comptes. Or, aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui ne payent pas, ce sont les premiers à revendiquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec les impôts. Non, paye d'abord, là tu es fort. Là, tu es motivé et puis juridiquement, tu peux aussi dire, bon voilà, moi j'ai payé mes impôts, maintenant je revendique. Mais quand vous ne payez pas, vous ne pouvez pas revendiquer parce que là, vous consommez les impôts des autres. Pendant que les vôtres, vous ne les payez pas. Mmh. Donc en fait, c'est ce problème-là. Effectivement, il y a cette préoccupation-là de demander toujours qu'est-ce qu'on fait avec les impôts. Mais on le voit aujourd'hui. On le voit quand vous parlez de financement propre, c'est quoi?
Oui.
Là-dedans, il y a les recettes qui sont mobilisées par la DGI. C'est ça le financement propre, c'est sur vos impôts.
Voilà, ce sont nos impôts. Vous voulez participer à cette émission, composez le 081 890 63 94. Nous parlons aujourd'hui de la promotion de la culture fiscale avec Madame Godelive Elisabeth Longy, chargée d'études fiscales et communication à la DGI. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour promouvoir plus cette culture? Vous dites qu'il y a déjà des Congolais qui payent l'impôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour promouvoir cette culture?
D'abord, par rapport à la DGI, nous pensons mettre en place tout un programme de formation qui parte de la base. Pourquoi la base? Parce que la culture, on ne l'acquiert pas comme ça. C'est quelque chose qui est en nous, qui vit en nous, qui est un ensemble d'expériences, qui est un ensemble de valeurs auxquelles on a souscrit depuis longtemps et on se dit, je suis citoyen, je dois payer.
Oui.
Alors, ce que nous pouvons intensifier plutôt au niveau de la DGI, c'est la communication, intensifier la sensibilisation à l'impôt, mettre les usagers dans les conditions les meilleures pour leur faciliter leur faciliter cet exercice-là de payer l'impôt. Et nous espérons que, avec ça, le contribuable ou l'usager sera à mesure de s'acquitter facilement. Parce qu'il ne faut pas que quand l'usager vient à la DGI, que ça soit compliqué. Déjà, c'est difficile de payer un impôt. Donc, la DGI s'est engagée depuis 2000 d'ailleurs, depuis l'année 2000, à simplifier les procédures. Elle s'est engagée à vraiment axer ses missions vers le service aux usagers, c'est-à-dire que rendre le paiement des impôts facile pour l'usager. Et pour nous, c'est une manière aussi de contribuer à la culture fiscale, contribuer à l'éveil de cette culture fiscale qui a existé. Parce que quand vous parlez aux personnes d'un certain âge, ils vont vous dire que non, voilà, nous on paye des impôts, mais on ne comprend plus pourquoi on ne paye plus. De l'autre côté, il y a aussi, il n'y a pas que la sensibilisation, oui, il y a aussi la répression.
La sanction.
Parce que quand vous ne payez pas et qu'on vous sanctionne, là, vous savez que, bon, je ne peux plus recommencer. Ça aussi, c'est une manière de promouvoir la culture fiscale. Mais pas sanctionner comme à l'époque coloniale, non.
Oui, à l'époque, on
sanctionne avec les pénalités.
On coupait les
ouais, c'était vraiment atroce. C'était vraiment atroce, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. C'était vraiment inhumain, surtout pour les caoutchoucs, pour nos frères de l'Équateur, qui en ont vraiment souffert. Mais aujourd'hui, la répression, ce sont les sanctions. Les sanctions qui sont prévues dans les procédures fiscales. Les pénalités. Les majorations.
Voilà. Ouais. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Fiston Bakajuka, qui nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Vous voulez également participer? Composez les 081 890 63 94.
Une heure avec Martin Kobler sur les réseaux sociaux. Au 100e jour de sa prise de fonction, le chef de la MONUSCO dresse le bilan de son action et répond à vos questions. Vous voulez rejoindre le débat avec Martin Kobler? C'est simple, suivez-nous sur les pages Facebook de la MONUSCO et de Radio Okapi et sur Twitter. Une heure avec Martin Kobler, c'est à suivre en live ce jeudi 21 novembre à partir de 15h, heure de Kinshasa, sur www.radiokapi.net.
Comment promouvoir la culture fiscale en RDC? Fiston Bakajuka est à Kananga, Gaston Gandou à Kinshasa. On commence avec Fiston, bonjour.
Bonjour mon frère.
On vous écoute Fiston.
Oui, j'ai une question, mais avant de la poser, je vais dire quelque chose. Les citoyens ne contribuent pas dans les budgets de l'État comme les autres le pensent, mais ils sont en obligation de payer les impôts ou fournir des ressources à l'État. Et l'État, en réalité, n'est qu'une idée juridique et non une réalité matérielle, car les biens de l'État sont les biens de la communauté. Alors, pourquoi dans le comportement d'un vrai Congolais, bon, c'est comme un caractère inné de voir la chose publique comme son propre pain? À n'importe quel niveau, vous voyez quelqu'un qui dit « on mange les fourmis dans la période des fourmis ». Je mange aussi maintenant, demain je peux ne pas être là. Bon, pourquoi c'est même un refrain dans les cantiques de tout Congolais, je vous remercie.
Voilà, Fiston, on n'a pas très bien compris la question. Pouvez-vous la répondre rapidement?
Je dis pourquoi les Congolais pensent qu'il faut manger quand on est au service, parce qu'on ne sait pas le lendemain. Pourquoi on ne pense pas à l'avancement du pays?
Alors, vous voulez dire pourquoi les Congolais ne payent pas l'impôt, c'est ça?
Les Congolais peuvent payer. Mais ceux qui sont bon, en fonction pensent qu'il faut manger au moment opportun.
D'accord, vous dites que les Congolais payent, mais ceux qui sont au pouvoir prennent cet argent pour eux-mêmes, c'est ça?
Oui, oui.
Voilà, merci. Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, disons, les Congolais d'abord ne payent pas parce qu'il n'y a pas assez de Congolais qui sont commerçants, qui exercent, ou soit qui sont redevables des impôts. Et puis les quelques-uns qui payent, je pense qu'il y a toute une procédure à la matière. Lorsqu'on ne paye pas l'échéance, on contraint. Je pense que c'est obligatoire, l'impôt. On ne peut pas demander à une personne d'avoir la culture de payer l'impôt au moment où l'État doit disposer tous les moyens pour contraindre à tout citoyen de pouvoir contribuer aux charges publiques. Ça m'étonne aujourd'hui que les Congolais travaillent dans l'informel au moment où nous avons toute une administration, un service, disons, d'administration fiscale chez nous, qui ne fait pas vraiment comme il faut. Je demande à l'invité alors Qu'est-ce que les services prévoient d'abord pour repérer tout ce monde-là qui travaille dans l'informel et puis c'est pas seulement l'informel, les peu de gens qui croient qu'ils sont au-dessus de la loi, qui ne veulent pas payer l'impôt, quels sont les moyens, à part ceux qui sont prévus légalement, qui ne sont pas appliqués, qui sont prendre ces gens-là en fait de payer l'impôt, mais aussi d'autres impôts qu'on ne sait pas voir, par exemple les impôts sur les loyers, d'autres impôts qui relèvent normalement de l'assiette fiscale de la DGI, mais qui ne sont pas perçus. Quels sont les moyens qu'ils ont mis en œuvre? Parce qu'à mon avis, sans impôts, je sais que ce n'est pas l'unique source de moyens d'un État. Il y a d'autres sources, entre autres les empreintes, les émissions de monnaie. Il y en a assez, hein. Mais par rapport à l'administration fiscale, je constate que non, il y a vraiment faille. Hein. Les gens n'exercent pas comme il faut, comme ils allaient travailler. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Merci.
Bien, merci Gaston. Séoul, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Dodi et aussi à l'invité. C'est Séoul, un grand à partir de Kananga.
On vous écoute, Séoul.
En rapport avec ce sujet, il est d'une importance capitale de dire que la fiscalité dans un pays joue un rôle non négligeable pour le développement d'un pays. Les Congolais doivent apprendre à payer les impôts et taxes pour le bon fonctionnement de l'État.
Alors, passez à la question, Séoul.
Tous nous avons le devoir de contribuer au développement de notre pays en payant les impôts et taxes. Car nous ne pouvons pas toujours nous demander ce que le pays peut faire pour nous, mais nous avons aussi le devoir de nous demander ce que nous pouvons faire aussi pour notre pays. Mais en finance publique, on a toujours l'habitude de dire que le principe de rendement de l'impôt, l'impôt est institué dans le but de fournir les ressources à l'État. En effet, les ressources fiscales doivent couvrir au moins 60% du budget de l'État. Sinon, l'État aura de sérieuses difficultés de financement de l'action gouvernementale.
Alors, quelle est votre question, Séoul?
J'ai une seulement petite question à poser. Ce n'est pas une question tout court, mais c'est une contribution. Mais la question que je pose ici est que, d'autre part, l'État doit toujours observer une certaine limite dans la fixation des taux d'imposition, car au-delà d'un certain taux, l'impôt devient confiscatoire et incite les contribuables à réduire son activité et par conséquent la matière imposable, d'où diminution des recettes fiscales. C'est ce qui pousse beaucoup de Congolais dans les formels. C'est ça ma contribution, je n'ai pas une question.
Merci Séoul. Bien, good live, Elisabeth, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Je le remercie et je me rends compte que nous parlons le même langage et que tout le monde est impliqué dans cette dynamique de la culture fiscale et tout le monde a pris conscience du bien fondé de l'impôt. Pour la première question, si j'ai bien compris, l'auditeur parlait plutôt des petits.
Il dit que certains payent l'impôt, mais certaines autorités utilisent cet argent à des fins privées. À des fins personnelles. Et ce qui décourage bon nombre de personnes, d'après Fiston.
Bon, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est comme la DGI est au niveau de la perception des impôts et la DGI n'est pas au niveau du robinet. C'est-à-dire là où, au niveau des dépenses, mais plutôt au niveau de recettes. Peut-être qu'il y a lieu d'approfondir la question avec ceux qui traitent des recettes pour pouvoir expliquer comment on gère les recettes, comment on les sécurise à partir du moment où les recettes sont versées directement au compte du Trésor.
Voilà. Et Gaston de Kinshasa dit, qu'est-ce que votre service fait, par exemple, pour ceux qui sont dans l'informel? Est-ce qu'il y a des contraintes pour ceux qui croient être au-dessus de la loi, qui n'aiment pas payer l'impôt? Et il a également parlé de l'impôt sur les revenus locatifs, et d'après lui, il y a l'évasion fiscale.
Tous les pays du monde recèlent de gains non perçus, des recettes qui ne vont pas directement au trésor public pour plusieurs raisons. En ce qui concerne le secteur informel, c'est pas seulement une affaire de la Direction générale des impôts. C'est déjà au niveau de douane, il y a eu deux mesures. Il y a eu le numéro impôt qui a été institué pour pouvoir suivre toutes les transactions, toutes les activités économiques avec un seul impôt, un numéro impôt et identifier l'opérateur économique. Ça fait partie des mesures qui ont été prises. Il y a la TVA qui permet, qui a établi une certaine traçabilité dans la vie économique, dans toutes les activités les activités ou bien les actions que posent les opérateurs économiques. Il y a toute une panoplie comme ça de mesures qui ont été mises en place pour pouvoir sortir ces opérateurs économiques du ghetto, les sortir du bois, pour qu'ils puissent s'identifier et que la DGI voit dans quelle mesure elle peut prélever l'impôt. Au-delà de la DGI, vous savez qu'il y a eu l'installation du guichet unique pour l'enregistrement des entreprises. Ça fait partie des mesures pour qui tentent de lutter contre le secteur informel. Avec ces guichets uniques, on va arriver à moyen terme, à court ou moyen terme, à saisir tous les petits opérateurs économiques ou bien tous ceux qui ne veulent pas se faire enregistrer d'une manière ou d'une autre.
Ou qui ont des parapluies à gauche et à droite intouchables.
En ce qui concerne les intouchables, ça c'est autre chose. Là, je parle du secteur informel. Okay. Mais en ce qui concerne
Les intouchables,
nous avons tous suivi dernièrement l'adresse du chef de l'État qui a appelé la population à une mobilisation générale. Nous avons aussi suivi les conclusions de concertations qui ont aussi épinglé cette affaire de trafic d'influence. Parce que c'est effectivement un problème qui tue aussi l'impôt. C'est un problème qui empêche les vérificateurs ou le contrôleur ou les inspecteurs des impôts de pouvoir recouvrer des impôts pour l'État. Ça, c'est une manière générale. Nous devons tous lutter contre ces genres de pratiques. C'est pourquoi nous appelons la population à la vigilance. Nous les appelons aussi au civisme fiscal. Parce qu'à partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes en train de voler l'État, que vous êtes conscient que ce sont les autres qui vous supportent, parce que les autres continuent à payer des impôts, à partir de ce moment-là, petit à petit, on va instaurer la fraude, le trafic d'influence comme des antivaleurs. Parce qu'aujourd'hui, payer l'impôt, c'est une faiblesse chez beaucoup de personnes. Ne pas payer l'impôt, c'est la règle, c'est le sport national. Et tout le monde s'arrange pour trouver des mécanismes pour ne pas payer l'impôt. Et je peux vous dire qu'il y a... Il y a des systèmes qui se développent autour de contribuables, autour de leurs conseillers et autour des agents de l'État pour éviter l'impôt.
Pour éviter l'impôt. On y revient, le temps d'accueillir Kabacha de Bukavu. Kabacha, bonjour.
Bonjour, papa.
Vous êtes à Bukavu, quelle est votre question?
Oui, je voudrais dire qu'il est vraiment encourageant de payer les impôts parce que payer les impôts, c'est participer au développement de notre pays. Et il fallait même aller au-delà de payer les impôts, les taxes, et faire même les dons à notre gouvernement. Parce que quand nous encourageons notre gouvernement, nous encourageons nous-mêmes.
Alors, quelle est la question, Kabacha? La question rapidement.
Qu'il faut se poser, pourquoi les gens ne veulent pas payer les impôts, au moins qu'ils savent que les impôts aident au développement du pays? Moi, je crois à ceci. Il faut d'abord démarrer la justice de notre pays. Parce que quand la justice va très bien, les gens qui ne paient pas les impôts seront interpellés. Et quand la justice va très bien, il n'y aura pas de magouille. Parce que les gens qui facilitent le manque de paiement des impôts, ils seront aussi incarcérés. Quand la justice va très bien dans notre pays aussi, les dirigeants ne voleront pas l'argent perdu dans les impôts. Et ainsi, cet argent servira au développement du pays, par exemple à la sécurité. Quand vous regardez dans notre pays, la sécurité n'est pas très bien. Et même dans les administrations, les gens vraiment sont clochardisés. Et cela peut aider, peut même donner les arguments aux gens qui ne veulent pas payer les impôts. Quand vous arrivez, par exemple, ici à Bukavu, les ministres, quand ils arrivent ici, ils donnent de l'argent n'importe comment. Quelqu'un qui est parti sans rien, quand il revient maintenant, il est tenté de distribuer des 5$, 7$ dans les stades, et aux vies et aussi de tout le monde. Et vous voyez les gens qui sont tentés de se faire taper des grandes maisons, par-ci, par-là, avec des frais du contribuable et encore en francs congolais, ils viennent avec des mâles d'argent ici. Et c'est là, nous le savons et nous le voyons ici, et ça ne peut pas même aider même aux contribuables de payer les impôts parce qu'ils voient que cet argent est perdu, ça va dans un trou noir. Et il faut maintenant qu'il y ait une adhésion populaire au gouvernement. Donc, il faut que les gens puissent avoir une adhésion populaire au gouvernement. Donc,
d'accord, merci. Merci Kabacha, on a compris. Désiré, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Quelle est votre question, Désiré?
Je n'ai pas une question, mais je ne suis pas d'accord avec ce que madame avait dit là. Quand elle avait dit qu'il faut d'abord payer l'impôt, le reste va venir après. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que, d'abord, les gouvernements et les autres commencent à prouver la bonne foi de l'argent qu'ils gagnent des impôts des citoyens. Je vais vous donner un exemple, mon frère.
Oui.
Ici, à Kisangani, si aujourd'hui, Son Excellence, M. Yamanissa, demandait à toute la population de contribuer l'argent parce qu'il va faire les routes, mais les gens vont donner parce qu'ils voient déjà des exemples. Si là-bas, à Kinshasa, les gouvernements disaient, voilà, donner l'argent, je voulais encore bien faire la ville de Kinshasa. Les gens vont donner l'argent à Kinshasa parce qu'ils voient déjà des signes. C'est plutôt au gouvernement de prouver que l'argent que nous gagnons, voilà ce que nous faisons avec. Kisangani a une grande route d'ici jusqu'à Mounia, tout ça. L'argent que nous payons, cet argent va où? Je vais vous donner un exemple de parafiscalité, ma frère. L'argent que nous payons, les copas, RVA, ça va où? Quand vous allez dans nos aérogares, c'est du dommage, du n'importe quoi. Voilà, c'est ça le problème.
Oui.
On va donner l'argent, mais on trouve que l'argent que nous donnons, la terre, c'est ça le problème.
D'accord.
Les Congolais payent les impôts.
Oui.
Il y a certains petits problèmes, peut-être la capacité contributive, c'est là où ils devraient aussi tenir compte. Parce que dans les douanes, là, on taxe les gens, n'importe comment, tout ça, c'est taux exorbitant. Mais il faut que le gouvernement nous montre, il nous prouve.
D'accord.
L'argent que vous donnez, voilà ce que nous faisons avec. Ce n'est pas seulement les policiers, ce n'est pas seulement les militaires, comme elle a dit là-bas. Mais il y a des investissements qu'il faut démontrer.
D'accord, merci.
Il faut les faire voir. Comme ça, les gens vont donner sans problème.
D'accord, merci Désiré de Kisangani. Madame okay. Godelive.
Je comprends très bien que ça choque un tout petit peu quand on demande de payer et de justifier après. C'est justement parce que on n'a pas pris l'habitude de pouvoir payer d'abord.
Madame,
et comme j'ai dit, excusez-moi, comme j'ai dit au début, généralement ce sont ceux qui ne payent pas qui réclament. Qui réclament et qui veulent savoir ce qu'on fait avec les impôts. Nous sommes combien de Congolais? Plus ou moins 70, 78 millions d'habitants en attendant le recensement général de la population.
Oui.
Et si chaque Congolais pouvait contribuer, je pense que l'État allait terminer la construction des routes. Aujourd'hui, on dit toujours, voilà, on paye. Mais qui paye? Qui paye? Très peu payent. Et ce sont les mêmes qui payent. Et ce sont ces mêmes-là sur lesquels la Direction générale des impôts exerce une certaine pression pour pouvoir collecter les impôts. Si tous les Congolais payaient, peut-être qu'on allait changer de langage. Donc je ne suis pas d'accord avec l'auditeur qui veut savoir ce qu'on veut faire avec l'argent sans pour autant contribuer. Non, vous contribuez et puis vous posez des questions. Là, c'est justifié.
Mais il dit, il revient au gouvernement de communiquer, de dire que voilà, avec l'argent que vous avez donné, voilà ce qu'on a fait, voilà, voici les preuves.
Est-ce que vous savez que chaque mercredi, l'actuel Premier ministre, quand il était ministre des Finances, il avait institué une réunion de régie, et après la réunion de régie, on publie les résultats, on publie la situation de recette. Donc, la population est informée de la situation de recette. Aujourd'hui, le gouvernement communique sur les routes. Écoutez, nous le vivons. Nous les vivons à Kin. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas vu les routes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu les infrastructures pousser comme des champignons. Mais nous devons continuer dans cet élan. Et pour continuer, il faut payer encore. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Il ne faut pas qu'il y ait seulement de consommateurs. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui mettent la main à la pâte, qui contribuent comme tout le monde. Qui paye aujourd'hui? Je peux vous dire que les fonctionnaires, tous les fonctionnaires de la République payent. Puisque nous revenons à la justice fiscale. La justice fiscale veut dire que tout le monde paye. Chacun suivant sa capacité contributive. Aujourd'hui, les fonctionnaires se battent pour Mboudi. Mais attention, les fonctionnaires payent malgré leur salaire actuel. Ils payent les impôts. Ils payent l'impôt. Mais vous trouverez, par exemple, certains Congolais...
La rétention s'est faite déjà à la source.
À la source, au niveau du ministère du budget. Mais vous allez trouver, par exemple, certains Congolais qui ont de gros salaires, mais qui ne payent pas. Beaucoup ne payent pas, mais ils ont de gros salaires. Vous avez ceux qui travaillent, par exemple, avec les partenaires au développement. Je parle des Congolais. La plupart, écoutez, ils ne payent pas. Pourquoi? Pourtant, leur salaire est 1000 fois supérieur à celui des fonctionnaires. Vous voyez qu'il a raison, le premier auditeur, c'est lui qui a parlé de la justice fiscale.
Oui.
Tout le monde doit payer suivant sa capacité contributive. On ne peut pas voir dans un pays ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, ils payent. Au niveau de l'Assemblée, du Parlement, je veux dire, il y a eu des petits problèmes, mais aujourd'hui, tout le monde paye. Pourquoi d'autres Congolais ne payent pas, qui ont de gros salaires? et ils attendent, ils revendiquent.
Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ceux qui ont des gros salaires arrivent à payer aujourd'hui?
Ben, il faut qu'ils payent. Il faut
qu'ils payent. Mais comment les contraindre à payer maintenant? Parce qu'ils ne veulent pas.
Mais il y a des mesures. Il y a des mesures qui sont. Il y a des mesures. Il y a l'interpellation. Il y a la sensibilisation. Ce que nous sommes en train de faire, ils suivent. C'est pourquoi on parlait au début de la culture, on disait que ce sont des habitudes. Et le civisme, c'est le dévouement de chacun à, sa patrie. Donc aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas qui fait quoi exactement si chacun ne se sent pas à mesure de venir déclarer. Si chacun se réfugie devant, derrière des barrières. Et ce sont les mêmes qui revendiquent, ce sont les mêmes qui accusent, mais ils ne payent pas. Pour ceux qui payent, il faudrait les féliciter, ils ont le droit de marcher sur les routes. Ils ont le droit de revendiquer, mais ils comprennent et ils continuent à payer. Mmh. Donc c'est ça en fait le grand problème. Parlons de la justice, puisqu'on parle de magistrats, on parle de tous ceux qui contribuent. Attention, les magistrats, ils sont payés par l'État. Donc dans tout ce qu'ils font, dans tous les actes, ils sont appelés à préserver les recettes de l'État. Parce que ce sont ces mêmes recettes qui contribuent au paiement de leur rémunération.
Et prenons par exemple, cercle vicieux. Vous savez, Madame Godelive, dans beaucoup de sociétés, les gens n'ont pas un contrat de travail, c'est des journaliers. Est-ce qu'ils doivent aussi payer l'impôt?
Non, notre système fiscal ne permet pas aux journaliers, à ceux qui ont des revenus vraiment ponctuels, de pouvoir payer des impôts. Là, c'est au niveau du ministère du Travail, au ministère du ministère de l'Économie, qu'il faudrait voir dans quelle mesure on peut avoir une politique de l'emploi qui permet à ceux qu'on puisse d'abord sécuriser l'emploi.
Leur donner des contrats.
De là, il y aura des contrats. Et c'est sur base de ces contrats que l'administration des impôts maintenant pourra prélever les impôts dus par rapport au montant du salaire.
Voilà, il y a Séoul Dekananga qui a parlé aussi du taux d'imposition et des matières imposables. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Bon, je ne sais pas. Jusque-là, je sais que la RDC n'est pas classée parmi les pays qui exercent une forte pression fiscale sur le contribuable. Non. Je pense que parmi les grands pays, il y a la France, où le taux d'imposition sont très élevés, la pression fiscale est très élevée. Chez nous, on parle d'imposition, deux fois on confond le taux d'imposition avec les taxes, tous les taxes que les gens payent. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple l'IPR, c'est un taux progressif. Donc, c'est par rapport au salaire,
l'IPR,
à la
quoi?
Tranche, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Okay. C'est par rapport à la tranche. Donc, on ne peut pas dire qu'on paye beaucoup. La TVA, nous sommes à 16%, la moyenne.
Et l'impôt sur les revenus locatifs, ça, c'est plus géré par...
Bon, l'impôt sur le revenu locatif, avec la constitution de 2006, il y a eu deux matières qui sont des compétences exclusives des provinces, et parmi lesquelles, il y a certains impôts qui ont été cédés. Donc, la DGI ne gère plus ces impôts-là, mais c'est plutôt les provinces qui les gèrent.
Ok. Voilà, donc, question, il y a un autre auditeur qui nous a écrit. Dans les années antérieures, les contribuables étaient contraints de payer l'impôt car on les retirait sur le bulletin des paies à la source. Aujourd'hui, pourquoi la Direction générale des impôts ne se bat pas pour que cette culture revienne ou cette pratique puisse revenir, la retenir à la source, l'impôt à la source?
L'impôt de fonctionnaires est retenu à la source. Et par rapport au mécanisme actuel aussi de paiement de l'IPR, il y a l'implication des employés qui retiennent aussi à la source et qui reversent. Donc, ce n'est pas un mécanisme qui a changé, c'est un mécanisme d'actualité. Et ça se fait chez nous, on retient à la source.
Voilà, il y a un auditeur, Aimé Minaku, qui nous a écrit depuis Siro. Il dit « J'aimerais que l'invité établisse la différence entre les impôts directs et impôts indirects. »
Bon, je ne sais pas si ça a une implication sur le civisme fiscal. Les impôts indirects, ce sont des impôts qui ne sont pas supportés directement par le contribuable ou qui sont perçus directement par le contribuable. Les impôts directs sont ce que nous appelons aussi les impôts réels qui sont à charge du contribuable lui-même. Les impôts indirects ne sont pas vraiment à charge de redevables. Oui.
Voilà. Donc, la culture fiscale, elle est importante. Vous dites que déjà, on remarque un changement dans la société congolaise. Il y a certains qui ont compris et qui payent facilement l'impôt. Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi c'est important de payer l'impôt?
Parce qu'on est citoyen d'abord.
Parce qu'on est citoyen. C'est un devoir civique.
On défend des valeurs, les valeurs républicaines, et contribue à l'amélioration de son environnement de vie. Et on contribue à la charge de l'État. C'est pour ça que nous payons des impôts. Parce qu'il faut que l'État fonctionne. Il faut que le pays se développe.
D'accord. Il faut que le pays se développe. Merci, Madame Godelive. Elisabeth Longy, je rappelle que vous êtes chargée d'études fiscales et communications à la Direction générale des impôts. Merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
Merci. Radio Capi.